Culture et confiture. Une chronique bien tartinée par Manon Seren.
Vous reprendriez bien un peu de culture ? Alors c'est parti ! Mais avant tout, si vous êtes encore au petit-déj, faites griller les tartines, beurrez et ajoutez votre cuillère de confiture. Mais surtout, n'étalez pas trop votre culture. C'est parti pour un nouvel épisode de Culture et confiture. Le week-end approche, alors je vous propose de revenir sur les différents événements évoqués cette semaine. Lundi, nous avons fêté ensemble un anniversaire, celui de l'actrice Meryl Streep, née le 22 juin 1949. Partie pour une carrière de cantatrice, Meryl Streep se tourne petit à petit vers le cinéma, mais sa première expérience ne reste pas un bon souvenir pour la jeune femme. Elle se souvient d'une perruque horrible et de répliques confuses, une expérience qui lui fera croire qu'elle vient de faire une grande erreur et que son histoire avec l'industrie du cinéma s'achève ici. Comme quoi, on ne sait jamais ce qui nous attend. Peu après, elle se fait donc remarquer par Robert De Niro qui la suggère pour jouer dans Voyage au bout de l'enfer, un film dans lequel elle donnera la réplique à son compagnon John Cazel, pourtant souffrant. C'est d'ailleurs pour financer les soins médicaux de celui-ci qu'elle acceptera ensuite à contre-cœur un rôle dans la série Holocaust. Son mari disparaîtra quelques mois plus tard, mais alors qu'elle traverse un deuil difficile, les consécrations s'enchaînent pour Meryl Streep, notamment suite à son rôle dans cette série. Très vite, l'industrie du cinéma et les cinéphiles constatent la capacité de l'actrice à jouer dans n'importe quel style de film, et même des comédies musicales. Icône et modèle pour beaucoup, elle fait également partie des actrices les plus célèbres de sa génération, et est l'une des comédiennes les plus récompensées du cinéma anglophone avec 3 Oscars, 9 Golden Globes et encore une vingtaine de récompenses américaines et internationales. Et alors que l'on parlait cinéma, la majorité des 2000 salles françaises rouvraient justement lundi. Alors êtes-vous retourné faire un tour dans les salles obscures de la métropole lilloise ? Si ce n'est pas le cas, pensez-y. C'est l'occasion de profiter d'un bon film au frais après ces fortes chaleurs. Et puis surtout de soutenir l'industrie du cinéma, et ce aussi à l'échelle locale.
Culture et confiture.
Mardi, nous avons parlé sport avec la création du Comité international olympique. Alors à quoi ça sert ? Eh bien à l'origine, le 23 juin 1894, Pierre de Coubertin créait le CIO pour offrir une deuxième naissance aux Jeux olympiques, dont la dernière édition a eu lieu plus de 1500 ans plus tôt. Par ces Jeux, il souhaite participer au développement de relations internationales pacifiques grâce au sport. Il veut ainsi faire de l'olympisme une forme de religion laïque, et c'est pourquoi nombre de symboles, devises, anneaux, flammes olympiques ou encore hymnes y sont associés. D'ailleurs, vous souvenez-vous de ce que représentent les anneaux olympiques ? Eh bien, on compte 5 anneaux pour 5 continents. C'est Pierre de Coubertin qui a créé ce drapeau avec un clin d'œil au drapeau des nations du monde entier à travers les 6 couleurs présentes sur les anneaux. Techniquement, à quoi sert le CIO ? Eh bien, à centraliser l'administration et l'autorité des Jeux. C'est également l'organisme qui désigne, lors de sa session annuelle, les prochaines villes qui accueilleront les Jeux. Si à sa création, le CIO décide l'organisation de Jeux tous les 4 ans, ce rythme évoluera en 1994 pour trouver celui qu'on lui connaît aujourd'hui, 2 ans en alternance entre les Jeux Olympiques d'été et les Jeux Olympiques d'hiver. Et pour info, les prochains JO qui devaient se tenir cet été à Tokyo ont été reportés en raison de la crise sanitaire et se tiendront normalement du 23 juillet au 8 août 2021. Et le 23 juin, c'est aussi en France la journée olympique. Décidée en 1987 par la commission Sport pour tous, cette journée a été créée pour célébrer le sport et en promouvoir sa pratique. Elle est désormais axée sur 3 grands points, bouger, apprendre et découvrir, l'occasion au sein des différentes académies françaises d'organiser des activités physiques et sportives, des travaux manuels, culturels, des conférences ou encore des démonstrations sportives. Cette année, au vu du contexte sanitaire, cette journée s'est développée sous un format différent, mêlant des activités physiques mais aussi digitales.
Culture et confiture.
Mercredi, je vous ai envoyé chez les extraterrestres. Non, plus sérieusement, nous avons parlé de la première apparition de soucoupes volantes. C'est en tout cas ce qu'a déclaré l'américain Kenneth Albert Arnold le 24 juin 1947. Cet aviateur américain est considéré comme le premier homme à avoir pu observer des ovnis. Alors qu'il revient d'un vol à bord de son monomoteur pour rechercher un avion militaire disparu, Kenneth Arnold déclare avoir vu 9 objets volants blancs près du Mont Rainier dans l'état de Washington. Il évoque alors des formes inhabituelles dont il ne parvient pas à identifier la nature. Loin d'envisager la piste des extraterrestres, il songe d'abord à des objets dangereux créés par les soviétiques. Il rencontre alors un inconnu qui déclare avoir aussi observé ces mêmes phénomènes, et c'est ainsi que Kenneth Arnold se rend à la rédaction du quotidien local pour faire vent de son histoire. Très rapidement, son récit fait le tour des rédactions, et sachez d'ailleurs que le nom de soucoupe volante et disque volant serait né dans la bouche des journalistes qui relataient cette information suite aux déclarations d'Arnold. Ensuite, son expérience sera très largement médiatisée et fera aussi l'objet de nombreuses controverses. Alors, pour tenter de rétablir la vérité, des chercheurs privés se pencheront sur le sujet de ces fameuses soucoupes volantes, baptisées plus tard OVNI, mais finalement, rien de concluant ne put être publié. Arnold lui-même enquêtera pour en savoir davantage sur ce qu'il a vu et en convaincre les plus sceptiques. Il publiera en 1952 un livre dans lequel il raconte ses observations, mais aussi la vérité sur l'enquête qui s'ensuivit. Et pour ceux que cela intéresse, des ovnis aussi auraient été observés dans notre région. Le web regorge d'anecdotes, alors à vous de mener votre enquête, mais attention aux fausses pistes.
Culture et confiture.
Jeudi, nous avons pris un rafraîchissement à l'eau de mer. Nous avons en effet parlé du commandant Cousteau, disparu le 25 juin 1997. C'est sur la côte marseillaise que Jacques-Yves Cousteau découvre l'océan en pratiquant la nage et l'apnée. Attiré par cet univers, il poursuit son parcours scolaire dans cette voie et devient officier canonnier. Il s'oriente alors vers l'aéronautique navale, mais victime d'un accident de la route, il est forcé à la convalescence près de Toulon. Là-bas, c'est aux côtés de Philippe Thaliez, qui deviendra plus tard un de ses fidèles, qu'il s'essaye aux lunettes sous-marines et redécouvre un monde qui lui deviendra bientôt central, la vie sous-marine. C'est après la Seconde Guerre mondiale que Cousteau et Thaliez rencontrent un autre chasseur sous-marin, Frédéric Dumas, et ensemble, ils forment le groupe des Mousquemers, avec lequel ils démarreront de nouvelles expériences de recherche sous-marine, mais également en laboratoire. Et c'est par ce travail que Jacques-Yves Cousteau sera l'un des premiers à alerter sur les enjeux climatiques et écologiques. En effet, alors qu'il embarque à ses débuts en 1950, les effets des polluants, la surexploitation des océans ou encore la dégradation des zones côtières sont des choses encore inconnues par le grand public. Et c'est à bord de la Calypso, donc un ancien dragueur de mine restauré et transformé en navire océanographique, qu'il mettra au jour ses problématiques, notamment par le biais de livres et de films qui interpelleront le grand public sur le désastre écologique lié à l'activité humaine. Récemment, c'est son fils, Philippe Cousteau, qui s'exprimait le 8 juin dernier dans le cadre de la Journée mondiale de l'océan. Il assurait alors que les moyens pour sauver les océans étaient désormais connus et qu'il ne s'agissait plus que d'une question de volonté politique pour faire changer les choses. Utilisant les images tournées par son père, il dresse une comparaison alarmante avec l'état actuel des océans, conséquence de l'explosion industrielle qui a bouleversé les écosystèmes. Pour en savoir un peu plus, n'hésitez pas à consulter les livres et les films du commandant Cousteau. Vous pouvez aussi vous tourner vers l'équipe Cousteau, ancienne fondation Cousteau créée par le commandant, ou encore des antennes locales d'associations qui luttent elles aussi pour la protection des océans, telles que Surf Rider Pas-de-Calais ou encore Sea Shepherd à Lille. Et si avant de profiter de la mer cet été, on veillait aussi un peu sur elle? Bon, et sous ce grand soleil, il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une bonne baignade et un bel été, puisque Culture et Confiture prend aussi ses vacances, mais pas de panique, on se retrouve ensemble en septembre pour de nouvelles histoires toujours plus confituresques.
Retrouvez Culture et Confiture en podcast sur notre site rpl.radio.